Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nani Titalani. Tous les 2 à 3 ans, des flambées de rougeole affectent des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants en République démocratique du Congo, indique l'ONG MSF, Médecins sans frontières. Depuis 2022, plus de 148 000 cas et au moins 1 800 décès ont été notifiés. Comment expliquer cette situation d'urgence permanente? Comment MSF intervient-elle pour soulager les populations atteintes? Quelle stratégie engager contre la persistance de foyers épidémiques? Mais surtout, comment éradiquer la rougeole en RDC?
La vaccination reste le moyen majeur, hein, la prépondérance en termes de moyens pour pouvoir contrôler les flambées. Il faut vacciner pendant une période du foyer. S'il y a un foyer qui se dégorge quelque part, il ne faut pas attendre que ça s'en passe. Il faut vacciner. Il faut continuer les vaccinations en routine. C'est-à-dire que en dehors des flambées, il faut continuer à vacciner les enfants.
Telles sont les questions auxquelles s'intéresse Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine et auxquelles répondra le docteur Louis Massing, point focal RDC. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie, présentée par Mouamadou.
Votre Santé, Votre Avenir, l'invité de la semaine. Votre Avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment d'écouter notre discussion avec le docteur Louis Massing. Bonjour docteur.
Bonjour.
Avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la rougeole?
Merci de cette opportunité que vous nous donnez de parler de la rougeole et de sa situation en République démocratique du Congo. Est une infection virale aiguë. Principalement du laboratoire, facilement ou du moins qu'on reconnaît, surtout par l'un de notamment, ce sont des petites taches hein, qui commencent en général sur le visage avant de s'étendre au reste du corps. Mais il n'y a pas que ça, il y a en réalité les premiers symptômes apparaissent généralement bien avant, c'est à type de forte fièvre. Le tout et les éponyments nasales. Et puis vous avez aussi les yeux rouges et larmoyants. Donc ce n'est qu'en général, 2 semaines après l'infection, que l'éruption cutanée typique commence. Donc la rougeole s'attrape en général par les gouttelettes qui sont projetées dans l'air ou sur une surface lorsque une touche est éteignée. Donc, ce que nous pourrons aussi dire pour chuter, c'est une maladie qui est plus contagieuse au monde. Si une personne infectée peut contaminer jusqu'à 90% des personnes non immunisées autour d'elle. Donc, seules les personnes vaccinées, deux fois ayant fait la rougeole, sont quasiment protégées.
D'accord, merci.
C'est là que la rougeole a quasiment exclusivement les enfants.
Vous avez vraiment bien décrit la rougeole, comment elle se manifeste, mais est-ce qu'elle est facilement identifiable?
En réalité, dans les premiers jours des symptômes, elle peut être confondue hein, avec d'autres maladies présentant des symptômes similaires, notamment la rubéole ou la scarlatine, par exemple. Mais pendant les épidémies, la rougeole est souvent diagnostiquée uniquement sur la base des symptômes tels que la fièvre. Et puis vous avez des taches qu'on appelle en général des taches leucoplique qui apparaissent à l'arrière de la bouche ou à l'intérieur des joues. Et puis vous avez aussi des éruptions cutanées qui peuvent s'accompagner. Mais en général, pour déclarer une épidémie de rougeole, on ne s'en tient pas que à ces manifestations cliniques. Il faut impérativement une confirmation au niveau du laboratoire.
Actuellement, il y a beaucoup de flambées de rougeole en RDC. Est-ce qu'on peut savoir les zones concernées par ces flambées?
Avant de parler un peu des zones concernées par la flambée, permettez-moi de parler un peu de ce qui fait rétrospectivement assez. 2022, le pays a connu une nouvelle flambée, hein, déjà en 2019, on en avait avec une augmentation de plus de 300 000 cas. avec une légère accalmie en 2020 et 2021, il y a eu une belle flambée en 2022 où on a modifié près de 150 000 cas. La situation continue à être préoccupante puisque depuis le début de l'année jusqu'à date, le pays a déjà enregistré environ 25 000 cas. Et actuellement, d'après les relevés épidémiologiques des autorités sanitaires, la majorité des cas suspects sont identifiés ou sont localisés un peu au niveau de la partie est du pays, c'est-à-dire le sud Kivu, le nord Kivu, et une bonne partie au niveau du Lomami. Alors, mais au-delà de, en plus de ces trois provinces, vous avez les zones de santé officiellement qui sont en épidémie, localisées dans d'autres provinces telles que la Tchopo, le Sankuru, la Mongala, le Lualaba, Kudu, Kinshasa et le Kasai Central. Et toutes ces provinces continuent à enregistrer des cas.
D'accord. Et combien de personnes sont touchées et quelles sont les couches de population les plus exposées ou les plus atteintes?
Alors, comme je vous disais tantôt, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on estime à environ 25 000 personnes qui sont déjà, selon les relevés épidémiologiques issus des autorités sanitaires. Et la couche, la population la plus affectée, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Donc, principalement dans des zones d'accès difficile ou alors en termes de géographie ou alors d'accès difficile en termes de contraintes sécuritaires.
Alors, docteur, que ces flambées s'étendent à d'autres provinces?
Il faut dire que les flambées à d'autres provinces, mais il faut déjà dire qu'une bonne partie des provinces, je vous ai cité tout à l'heure, trois provinces qui notifient un seul dans lesquelles les provinces ou les zones de santé sont en épidémie, mais les risques existent. Tant que vous avez des enfants qui ne sont pas suffisamment immunisés, on peut dire pratiquement tous les 2 ou 3 ans, le pays connaît des flambées du virus. Et puis là, en 2022, déjà, on a eu à notifier un nombre de 150 000 cas, avec à peu près plus de 100 décès. Il faut dire qu'à chacune de ces flambées, les autorités et les partenaires se mobilisent pour faire des thèmes de foyers épidémiques et à ceux qui, par exemple, en 2022, MSF a eu à terminer sur 5 interventions. On a pu vacciner ou continuer. Tant que les foyers subsistent, les risques de contagion persistent. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on parle là, comme je dis, encore d'une maladie les plus contagieuses. Donc on estime environ 1 personne porteuse à 90% de personnes immunisées autour d'elle. Donc ceci est particulièrement énorme. Et dans un pays comme la RDC, qui connaît tant de défis sécuritaires, géographiques, économiques, où la couverture vaccinale est encore en deçà du seuil requis par l'Organisation mondiale de la santé, le taux de natalité est assez élevé. Ceci reste encore des facteurs qui sont des facteurs à risque de flamber et de persistance de flamber.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Merci beaucoup. Nous reviendrons encore sur ces stratégies, mais avant cela, vous avez évoqué plusieurs flambées. C'est pas la première, celle qui vient de se déclencher. Mais qu'est-ce qui explique toute cette situation d'urgence permanente de flambée de rougeole?
Qu'est-ce qui explique cette flambée permanente? C'est comme je vous l'ai dit, il faut une couverture vaccinale pour pouvoir stopper cette flambée. Et cette couverture vaccinale, il faut qu'on l'estime autour de 95%. Et il faut dire qu'en RDC, on est encore loin d'atteindre cette couverture. C'est d'aider le maximum d'enfants et de juguler les flambées donc, autour de la paix. Et puis, il y a la disponibilité des vaccins, il y a les enjeux liés à l'accessibilité, il y a les enjeux liés aux infrastructures et même à la présence du personnel dans les infrastructures sanitaires. Donc, tout ça concourt à mettre en place l'atteinte d'une couverture vaccinale sans celle actuelle. On est encore en ce seuil-là. Donc, se rendre ça, on aura toujours des flambées.
Mais en dehors de la vaccination, y a-t-il d'autres moyens qui peuvent aider à prévenir la rougeole?
La vaccination reste le moyen majeur. Hein. C'est la prépondérance en termes de moyens pour pouvoir aider les flambées. Il faut vacciner pendant les périodes de foyer. S'il y a un foyer qui se déclenche, il faut continuer les vaccinations en routine, c'est-à-dire que en 2 ans, Il faut que les enfants reçoivent impérativement les vaccins et on se réjouit qu'actuellement en République démocratique du Congo, déjà 13 provinces sur 26 ont introduit cette deuxième dose. On évolue vers l'introduction dans les 13 autres provinces. Donc ceci est important et c'est capital. Et en plus, à chaque fois qu'un enfant est en contact avec une structure de santé, il faut vérifier son statut vaccinal. S'il n'est pas vacciné ou est suffisamment vacciné, il faut vacciner. Et en plus, il faut effectuer des campagnes de masse qui permettent de vacciner le maximum d'enfants en ici, et ce qui fait qu'on arrive à augmenter cette couverture vaccinale.
Charles, est-ce qu'elle est traitable?
Il existe aujourd'hui un traitement qui est spécifique, automatique, c'est-à-dire qu'on traite en fonction de... Mais aussi, il y a aussi une prise en charge de cas compliqués. Mais en général, tout tourne autour d'une antibiothérapie et d'une supplémentation en vitamine A. Maintenant, il peut avoir des complications liées au fait que l'enfant a été longtemps malade. Ça peut être qu'il faut faire une supplémentation en aliments thérapeutiques.
Que pourrait-il se passer si on ne traitait pas la rougeole ou bien si elle était négligée?
Si on ne la traitait pas ou est-elle négligée, les risques sont élevés. Parce que la rougeole en elle-même contribue à gérer massivement le système immunitaire grave, par la des risques d'atteinte oculaire en termes de cécité. Comme je disais tout à l'heure, à fréquence, une période à peu près de 3 ans, l'enfant est vulnérable. Il est exposé à d'autres complications. Je vous ai parlé tout à l'heure de la malnutrition. Vous avez d'autres complications des voies respiratoires, peut-être que la pneumonie. Donc c'est important de soigner l'enfant jeune et surtout d'assurer un rattrapage vaccinal pour tous les enfants qui l'ont fait.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, on voit bien le public en RDC, mais pourquoi lorsqu'on parle d'urgence, le problème de la rougeole est rarement évoqué?
Je ne dirais pas que c'est rarement évoqué, c'est ce qui a toujours été l'actualité, mais il se trouve qu'il y a d'autres urgences. Il y a d'autres agendas qui ont un chronogramme et qui peuvent venir un peu avant la mer. La rougeole est clairement identifiée comme une urgence. Après, moi je dirais qu'elle est un peu une urgence silencieuse du fait qu'elle n'attire pas beaucoup de bailleurs en dehors de ceux qu'on connaît, notamment l'UNICEF, Gavi et même MSF. Mais comparé à d'autres urgences, par exemple, l'urgence par rapport à la COVID, il y a beaucoup de moyens qui sont mis avec des résultats pas très satisfaisants. Mais on a aussi, en termes de létalité...
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Ça fait deux situations bien différentes. Les enfants, tout à l'heure, je vous ai parlé de plus de 1800 décès. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, c'est une situation qui arrive dans un, qui est cultivée dans un agenda d'urgence qui font qu'elle n'est pas prioritaire. Mais en termes d'urgence, elle reste une urgence. Parce que, je vous l'ai dit, l'année dernière, c'est pratiquement 1800 enfants qui ont été emportés par la rougeole. Elle a coûté la vie à pas moins de 8000 enfants. On a un peu du mal à comprendre pourquoi il y a moins d'engouement en termes d'acteurs pour la lutte contre la rougeole et en termes même de moyens mis sur la table pour pouvoir juguler le flambé.
Alors, MSF, pour lequel vous travaillez, intervient beaucoup pour soulager les populations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que MSF fait pour soulager les populations congolaises contre la rougeole?
Vous savez, MSF est une ONG qui intervient dans des contextes d'urgence et la rougeole a toujours été une priorité pour Médecins sans frontières. Et à ce titre, nous travaillons généralement en collaboration avec les autorités sanitaires et nous renforçons, nous essayons d'apporter un support déjà à la vaccination de routine, comme qui se passe au quotidien, en facilitant le transport des vaccins, en motivant le personnel, et même en termes de conservation des vaccins, on met à disposition un certain nombre de moyens logistiques. Là où nous intervenons, nous avons des structures de prise en charge, que ce soit des cas compliqués ou des cas simples ou des unités d'isolement, et nous mettons vraiment les moyens pour pouvoir sauver des vies. Et nous avons aussi des activités spécifiques pour renforcer les autorités sanitaires. Et je saurais bien en parler des activités de riposte que nous menons et que nous avons encore menées les riposte de flambée. Nous avons 5 unités d'urgence qui sont régulièrement sur le terrain pour répondre aux urgences. Et comme je disais, l'année dernière, nous avons eu 45 interventions d'urgence liées à la rougeole. Nous avons pu vacciner autour de 2 millions d'enfants et appuyer des unités de traitement pour à peu près 37 000 enfants. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des réponses d'urgence. Nous contribuons aussi à renflouer le stock d'urgence des vaccins pour la RDC, bien que ce stock ne soit pas suffisant pour pouvoir répondre à toutes les urgences qui se présentent à nous.
Pour terminer, donc, qu'est-ce qui freine les efforts dans la lutte contre la rougeole et que faire pour remporter cette lutte?
Qu'est-ce qui freine les efforts dans la lutte contre la rougeole? Il faut déjà dire que le pays en soi, c'est un pays en termes de géographie qui est très gigantesque, avec des contraintes qui sont évidentes, c'est le contexte d'accessibilité géographique, c'est des situations sécuritaires qui ne permettent pas de bouger et de réaliser des réponses. Et puis, il y a aussi les infrastructures routières qui ne sont pas toujours à même d'aider à approvisionner les structures en intrants, en vaccins et en intrants. Donc tout ça, ce sont des grands défis. Tout ceci demande des gros moyens financiers, des moyens humains importants. Mais quelle stratégie engager pour pouvoir juguler un peu la situation? Moi, je répondrai en tant qu'acteur humanitaire et personnel qui travaille chez les Médecins Frontières, mais je pense que c'est qu'il y a une petite contribution par rapport à la situation ou l'expérience, mais il y a aussi les autorités sanitaires qui peuvent dire comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais toujours est-il qu'il faut assurer une couverture vaccinale au moins de 95%. Ceci permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de minimiser le maximum d'enfants. Mais il y a aussi le fait qu'il faut introduire la deuxième dose. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes assez satisfaits. Nous nous réjouissons du fait qu'elle est déjà introduite. Elle est introduite dans 13 provinces sur 26. Donc, les autres 13 provinces, le vaccin sera introduit dans les prochains jours. Ce qui permet de booster l'immunité de l'enfant à deux doses. On est certain que l'enfant il est correctement immunisé. Mais je veux dire qu'à chaque fois que l'enfant a un contact avec la structure de santé, que le statut vaccinal soit vérifié, et s'il est insuffisamment ou pas du tout vacciné, il faudrait qu'il soit vacciné. Donc à chaque contact, il faut profiter du contact de l'enfant avec la structure pour qu'il soit vacciné. Et en plus, ne pas attendre que les demandes prennent de l'ampleur. Quand il y a un foyer, il faut pouvoir l'éteindre. Il faut pouvoir intervenir rapidement avant qu'il y ait une flambée. Et à la fin, il faut effectuer les activités de vaccination de masse, qu'on appelle les activités de vaccination de suivi, qui normalement se font entre 2, 3 ans, maximum 5 ans, tous les 2, 3 ou 5 ans. Il faut pouvoir le faire. Et ceci permet de vacciner un maximum d'enfants. Mais malheureusement, ceci n'est pas toujours le cas et depuis pratiquement 2022, ça s'en prend du temps. La dernière vaccination de masse, elle a eu lieu en 2019 et ceci a permis de casser considérablement la courbe épidémiologique et d'immuniser le maximum d'enfants. Et là, de plus en plus, on va de report en report. On espère que d'ici la fin du premier trimestre, on pourra vraiment effectuer cette campagne de masse.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
Vous venez de suivre notre discussion avec le docteur Luma Singh, point focal médical, intersection de MSF en RDC. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé avec Mouamadou Oumfa.
Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur la tuberculose au lendemain de la célébration de la journée mondiale consacrée à cette maladie. Nous nous rendrons au Cameroun pour voir comment les autorités sanitaires luttent contre cette maladie. Nous écouterons l'avis d'un expert sur les nouvelles solutions les plus innovantes qui pourraient aider à faire face à cette redoutable maladie. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'était le thème de la journée mondiale de la tuberculose célébrée le 24 mars comme chaque année. La tuberculose reste l'une des maladies les plus mortelles au monde. Selon l'OMS en 2020, 1,5 million de personnes sont mortes de cette maladie. À l'échelle mondiale, la tuberculose était alors la 13e cause de mortalité et la 2e due à une maladie infectieuse derrière le Covid-19 et avant le sida. Au Cameroun, la mortalité liée à la tuberculose est de 30 personnes pour 100 000, selon l'OMS. L'an dernier, le pays a recensé des cas de tuberculose chez des enfants et une centaine de malades multirésistants dans les 292 centres de diagnostic et de traitement de la maladie. Une situation qui préoccupe les autorités sanitaires du pays. Voyons cela dans cet élément de notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le Cameroun enregistre un nombre assez important de cas notifiés de tuberculose dans ses hôpitaux, quoique la maladie reste encore sous-diagnostiquée.
D'après les estimations de l'OMS, nous devrions être chaque année autour de 47 000 cas, toutes formes confondues de tuberculose, mais malheureusement, nous ne notifions chaque année qu'autour de 25 000. Donc, pour ce qui est de l'année 2022, nous avions notifié exactement 25 286 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Et sans oublier nos tout petits enfants qui restent aussi sous-diagnostiqués avec seulement 5% toutes formes confondues de la tuberculose diagnostiquée au Cameroun, alors qu'on les attend autour de 10%.
Autre problème, le non-respect du traitement par plusieurs malades. Le traitement initial pour la tuberculose dure 6 mois pour la forme pharmacosensible, mais il peut atteindre jusqu'à 9 ou plus pour la forme pharmacorésistante.
Parmi nos malades suivis en 2021, nous avions 5% de nos patients qui ont été déclarés perdus de vue. Ils ont pris le traitement pendant au moins 2 mois et on n'a plus de nouvelles d'eux jusqu'à la fin de leur traitement.
Une situation qui nécessite plus d'attention.
C'est au sein de ces patients-là qui ont développé, on va dire, l'inobservance thérapeutique. C'est au sein de ces patients qu'on a des malades multirésistants. Les collègues sur le terrain sont assez formés pour d'abord tester et voir s'ils sont encore éligibles au traitement de la tuberculose sensible, et sinon on va devoir les soumettre sous un régime plus complexe qui est celui du traitement de la tuberculose multirésistante, qui est plus complexe comme je vous l'ai dit et qui dure jusqu'à 9 mois et qui part jusqu'à 11 mois.
Le Cameroun n'est pas épargné par des cas de résistance aux médicaments contre la tuberculose, mais là également ces cas sont sous-diagnostiqués.
Selon les estimations de l'OMS, qui nous attend chaque année avec 350 cas environ. En 2022, on nous attendait avec 350 cas de tuberculose multirésistante, mais nous n'avons pu diagnostiquer que 174 cas de tuberculose multirésistante. Et malheureusement, parmi ces malades diagnostiqués tuberculose multirésistante, il y en a qui refusent d'être mis sous traitement. Ça fait que sur 174 cas, on a eu un gap de 21%, dont 21% de nos malades n'ont pas répondu à l'appel au traitement.
Toutefois, depuis 2021, un protocole est appliqué dans les hôpitaux pour des cas de pharmacorésistance.
On est appelé à surveiller les malades pendant 4 mois en hospitalisation de la phase intensive pour que le traitement soit bien suivi, au cours desquels il prend son traitement à jeun sous la supervision du personnel soignant. Et après les 4 mois de la phase intensive, il est appelé à suivre en ambulatoire dans un centre de santé proche de son domicile les 5 derniers mois de son traitement. Toujours oral. Il n'y aura plus d'injection dans ce protocole parce qu'il a été retiré suivant les dernières recommandations de l'OMS, ce qui donne une chance à nos malades vraiment de bien suivre ce traitement et d'être déclarés guéris à la fin du processus.
Avec l'aide de ses bailleurs et partenaires, le gouvernement a rendu gratuit l'accès au traitement de la tuberculose.
C'est un traitement qui dure 6 mois pour la forme pharmacosensible avec 2 mois de phase intensive. Et 2 et 4 mois de phase de continuation. Pendant la phase intensive, le malade est appelé à prendre un comprimé qui est en fait combiné de 4 comprimés. Donc c'est 4 comprimés combinés en un seul pendant 2 mois. Et pendant la phase de continuation, il est appelé à prendre 2 comprimés combinés en un seul comprimé. C'est des formes combinées. Ça, c'est pour ce qui est de la forme pharmacosensible.
Le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose envisage l'élimination de cette maladie au Cameroun d'ici 2037. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
S'il existe des traitements contre la tuberculose, les experts notent des souches résistantes à un ou plusieurs médicaments. En 2020, l'OMS a recommandé que les patients atteints de tuberculose multirésistante soient traités selon un nouveau schéma thérapeutique. Les experts souhaitent donc la mise en œuvre de nouvelles solutions pour parvenir à vaincre la maladie. Voici ce qu'en pense Snorre Westgaard. Il est le dirigeant de Humana People to People, une fédération d'associations qui œuvre dans le domaine humanitaire et du développement durable.
L'Afrique est l'un des continents les plus touchés car ce sont principalement les pays à revenus faibles et moyens qui sont affectés par la tuberculose. L'une des raisons en est également le développement de nouvelles souches de tuberculose résistantes aux médicaments. Ainsi, alors que des médicaments ont été mis au point pour traiter avec succès la tuberculose, de nouvelles souches de tuberculose résistantes aux médicaments ont malheureusement fait leur apparition. La tuberculose résistante aux médicaments a commencé à se développer parce que les gens n'ont pas suivi strictement le traitement. Le fait d'abandonner le traitement, puis de le reprendre, de prendre un deuxième médicament, puis d'abandonner à nouveau, a entraîné le développement d'une résistance aux médicaments dans les souches de tuberculose. Et malheureusement, une personne peut transmettre une souche résistante à une autre personne, vous savez, une nouvelle infection. La communauté doit être informée afin qu'elle sache que la tuberculose est une maladie guérissable, mais aussi évitable. Lorsqu'un membre de la communauté contracte la maladie, il est important qu'il bénéficie d'un soutien. Toute la famille doit être testée, car il y a un risque d'infection. L'un des principaux défis à relever pour mettre fin à la tuberculose est de trouver les dernières personnes infectées. Si vous avez des symptômes, vous devriez faire un test. Notre expérience est que, par exemple, dans les pays où nous travaillons, nous avons touché environ 3 millions de personnes avec des informations sur la tuberculose et peut-être 10% d'entre elles présentaient des symptômes. 10 ou 12% des personnes présentant des symptômes ont un test positif. Même si vous toussez et présentez des symptômes, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez la tuberculose, mais il est très important que vous vous présentiez et que vous fassiez un test, car une fois que vous aurez testé 100 personnes, peut-être qu'environ 12 d'entre elles auront effectivement la tuberculose. C'est pourquoi la mobilisation communautaire et la sensibilisation sont très importantes pour trouver ceux qui ne pensent pas qu'il est nécessaire de se faire dépister. Le traitement préventif est un moyen d'éviter que d'autres membres de la famille ne contractent la tuberculose. Il s'agit donc d'une innovation qui est introduite dans certains pays à certains égards. Il s'agit également de mobiliser les fonds nécessaires. Nous disposons d'un fonds mondial pour la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Comme le dit le thème de la Journée mondiale de la tuberculose 2023, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, mais il s'agit d'investir suffisamment de ressources et d'énergie et de le faire ensemble. Tout le monde met la tête et les mains dans le même sac. Et je pense qu'il est très important de lutter contre la stigmatisation et qu'il s'agit d'une maladie à laquelle nous devons tous nous attaquer en collaboration avec les communautés.
Pour la première fois de son histoire, la maladie à virus Marburg a été détectée en Tanzanie. Les autorités tanzaniennes ont envoyé une équipe médicale d'urgence dans la région de Kagera, frontalière de l'Ouganda, pour enquêter sur ce qui était alors une mystérieuse maladie ayant tué 5 personnes. Les résultats du laboratoire de santé publique de Tanzanie ont confirmé que la maladie était provoquée par le virus de Marburg. Selon la ministre tanzanienne de la Santé, 3 patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités. L'Ouganda voisin, qui a connu sa dernière épidémie de la même maladie en 2017, a indiqué être en état d'alerte. Pendant ce temps, en Guinée équatoriale, l'OMS a indiqué le 23 mars que le bilan de l'épidémie de la même maladie, qui y sévit depuis plus de 2 mois, s'établit provisoirement à 7 morts confirmées ainsi que 20 probables. De son côté, à Malabo, le gouvernement parle de 7 morts confirmées parmi 9 cas testés positifs en laboratoire depuis le début de l'épidémie. Cette maladie reste donc un sujet d'inquiétude sur le continent.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le docteur Luma Singh, point focal médical intersection de MSF au Congo-Kinshasa, sur la persistance des flambées de rougeole dans le pays. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Mamadou Oufa. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Au micro, Nanit Kalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur